À 12h30, temps universel.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est la Libre Antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix, vos coups de cœur, vos coups de gueule sur l'actualité de la semaine. C'est donc à suivre et on va commencer cette Libre Antenne en parlant du Bénin après la décision hier de la Cour constitutionnelle qui a finalement donné raison au parti d'opposition Les Démocrates. Elle autorise donc le parti de l'ex-président Boni Yayi à déposer une nouvelle liste pour les élections législatives, liste qui, rappelons-le, avait été rejeté en début de semaine, mardi pour être précis, par la commission électorale. Bonjour Maurice.
Bonjour Juan.
À Parakou. Merci de nous appeler. Vous avez été nombreux à souhaiter commenter la situation politique au Bénin. Dans quel état d'esprit êtes-vous, Maurice, au lendemain de cette décision de la Cour constitutionnelle ?
L'état est parfait. Et je vous viens en disant que la raison est partagée pour les trois structures qui étaient devant la Cour constitutionnelle. Si je prends d'abord la première structure, qui est la Direction générale des impôts, mais la direction est dans son recouvrement et c'est nécessaire qu'on fasse des recouvrements. On ne va pas envoyer des gens à l'Assemblée qui sont avec des casseroles.
Donc, oui. Alors, quand vous dites que des gens qui avaient des casseroles, je rappelle quand même que sur la liste de ce parti de l'opposition, quatre des candidats n'avaient pas le fameux document qui justifiait qu'ils étaient en règle avec le fisc.
Oui, le quitus fiscal, oui. Donc, c'est nécessaire que la direction générale fasse son recouvrement. Et c'est pour ça que la raison est partagée, comme vous dites que les démocrates ont eu raison. La raison est partagée entre les trois structures. La Sénat est dans ses raisons. La Sénat est en train de dérouler son programme. Son programme conformément au texte, aux lois.
Oui.
Et si nous venons maintenant aux démocrates, les démocrates, pourquoi attendre que ça aille en haut avant d'y aller à la Cour constitutionnelle, avant de penser à remplacer les cadres? Oui. Les cadres concernés sont des individus. Pourquoi je prends
donc,
que...
Maurice, pour être clair, parce qu'il faut être clair, hein, on a peu de temps, vous dites que c'est la faute des démocrates si leur liste a été invalidée par la commission électorale. Ils auraient dû vérifier avant si tous les candidats étaient en règle avec le fisc. Mais excusez-moi Maurice, la Cour constitutionnelle a estimé hier que le défaut constaté n'était pas de la faute du parti.
Maintenant, on a dit de remanier non, la liste, non. Pourquoi on veut remanier? Pourquoi ils ne pouvaient pas remanier au début, avant? Il a eu tous les partis, beaucoup de partis sont restés dans ces conditions. Et ont pu, celui qui veut aller loin, maintenant, ça monture. Et surtout que vous dites que vous êtes parti d'opposition, grande opposition. Pourquoi arriver juste à ce niveau avant maintenant de dire on veut remplacer les
cadres? J'ai compris, c'est pas très clair, mais j'ai compris l'essentiel de votre analyse. Serge nous rejoint également, béninois. Bonjour Serge.
Bonjour Juan.
Que pensez-vous de l'analyse de Maurice qui dit de toutes les façons, les démocrates avaient tort. Et ils avaient tort parce qu'ils n'auraient pas dû mettre sur leur liste quatre personnes qui ont des dettes auprès du fisc.
Bon alors Juan, merci. Ce que je m'en vais dire, c'est que là où on en est aujourd'hui, il ne s'agit pas tellement de savoir qui a tort et qui a raison. Il s'agit plutôt de faire en sorte que ces échéances électorales soient ouvertes à tous et que contrairement à ce qui s'est passé depuis 2016, tous les partis puissent prendre part, désirer quand même de prendre part à l'élection, puissent y être. Et là-dessus, moi j'ai envie de dire bravo. D'abord, déjà à la Cour constitutionnelle, et féliciter le gouvernement aussi, puisque c'est quelque part cela. Mais mes craintes demeurent toujours, parce que si je me réfère à tout ce qui s'est passé ces dernières années, je préfère continuer à douter, à être prudent jusqu'à ce que la Sénat autorise le parti les démocrates à prendre part finalement.
Oui, parce que les démocrates vont maintenant déposer, ça a déjà été fait d'ailleurs, une nouvelle liste avec justement 4 nouvelles personnes qui théoriquement sont en règle avec le fisc, et la Sénat doit se prononcer. Mais enfin, théoriquement, si ces 4 personnes, 4 nouvelles personnes sont en règle, il n'y a aucune raison que la Sénat invalide la liste des démocrates. Mais malgré tout, vous restez vigilant.
Oh, je reste vigilant. Vous savez, l'adage qui dit « chat est chaudé, craint l'eau froide ». Nous savons ce qu'on a vécu ces dernières années depuis 2016 quand même sur le plan politique dans le pays. Et l'aspiration la plus importante de tout Béninois, épris de paix, c'est qu'on retrouve sur ce plan politique-là une certaine stabilité politique et que le pays ne fasse plus l'objet de tant de débats sur le recul de la démocratie sur le plan international.
Pour ceux qui ne suivent pas l'actualité politique béninoise, il faut quand même rappeler qu'en 2019, lors des dernières élections législatives, aucun parti de l'opposition n'avait été autorisé à présenter de liste. Merci infiniment à tous les deux, Maurice et Serge, et j'en profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent au Bénin. Vous avez été nombreux depuis hier à souhaiter prendre la parole dans cette émission. On va s'intéresser maintenant à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, où les affrontements se poursuivent entre l'armée et les rebelles du M23. On vous en parlait dans le journal de Fanny Blechner. Les combats se déroulent à une vingtaine de kilomètres de Goma. Bonjour Justin.
Bonjour Monsieur Juan Gomez et bonjour à tous les
auditeurs. J'espère que le réseau ne va pas se dégrader. Vous êtes justement à Goma et vous souhaitiez prendre la parole dans la Libre Antenne pour témoigner. Vous disiez au Standard « vivre avec la peur ».
Oui, bien sûr, ça fait la peur avec le procédure.
Alors attendez, vous savez, Justin, excusez-moi, on est en direct, il nous semble important évidemment d'avoir des auditeurs à Goma où le réseau téléphone est rarement très très bon. On va essayer de régler tout ça hors antenne et de vous retrouver très très vite pour qu'on puisse évidemment vous entendre dans la libre antenne. On passe donc à un autre sujet, c'est le principe de la libre antenne, hein. Vous commentez l'actualité de votre choix. Haruna, soyez le bienvenu, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes à Dakar, au Sénégal, et vous réagissez à la COP27 qui se tient à Sharm el-Cheikh, la conférence sur le climat qui, théoriquement, doit se terminer aujourd'hui, mais il est fort probable qu'elle se poursuive, puisqu'il y a encore des blocages, notamment concernant ce qu'on appelle les pertes et dommages, c'est-à-dire les compensations financières des dégâts causés par le dérèglement climatique, des compensations que les pays du Nord doivent verser aux pays du Sud. Et pour vous, vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, que c'est encore une COP pour rien, si je reprends vos propos.
Évidemment, Juan, vu les précédentes COP, je pense que cette fois-ci aussi, je reste dans le pessimisme que rien ne déclara, c'est-à-dire qu'on n'aura pas quelque chose de concret à la fin de cette COP 27, parce que et je pense qu'il y a un manque de volonté politique des autorités, des dirigeants mondiaux, en quelque sorte, parce que sinon, il y a tant de COP qui ont eu lieu, et maintenant, il faut vraiment aller plus vite, parce que, comme je l'ai dit dans mes commentaires, le temps passe vite, la sécheresse avance, les glaces fondent dans les océans. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence est là, surtout les pays sud qui sont les pays les plus vulnérables face au changement climatique. Je pense qu'il faut mettre en place des fonds conséquents pour lutter efficacement contre le changement climatique.
Ouais. C'est ce que disait hier Antonio Guterres qui a pris la parole à la COP. Il a dit « Le temps de parler du financement des pertes et dommages est révolu. Personne ne peut nier l'ampleur des pertes et des dommages. Le monde brûle et se noie sous nos yeux. » Haruna, imaginez que les dirigeants et ceux qui négocient en ce moment à Sharm el-Cheikh nous écoutent. Quel message avez-vous envie de leur adresser, vous qui êtes au Sénégal, qui êtes dans un pays du Sud et qui êtes impacté au quotidien par les répercussions, les conséquences du réchauffement ?
Alors, mon message que je voudrais lancer à l'égard de ces dirigeants, c'est de mettre d'abord leur ego à côté pour penser à l'humanité et penser aux pays du Sud, aux pays pauvres, qui sont les pays les plus exposés face au dérèglement climatique. Je pense notamment à l'Afrique. Et aujourd'hui, parce qu'on voit ce qui se passe en Afrique de l'Est avec la mort des bétails. Et si on prend aussi dans le Sahel avec l'avancée de la sécheresse, ça occasionne des crises alimentaires. Et je pense qu'aujourd'hui, avant de parler de tout ce chose, il faut qu'il y ait la vie. Mais quand on parle de la vie, il faut maintenant qu'il y ait de bonnes conditions, c'est-à-dire les conditions climatiques et toutes autres choses.
Oui. Donc que les pays du Nord respectent leurs engagements en matière d'émissions de CO2 et surtout qu'ils mettent la main au portefeuille pour respecter leurs engagements. Rappelons qu'ils ont promis, il y a déjà maintenant 13 ans, des sommes colossales pour les pays du Sud et les aider justement dans leur transition énergétique. Merci infiniment Aruna. J'ai cru comprendre qu'il y avait du vent à Dakar. Vous étiez peut-être sur la corniche, on entendait le vent. Bonne journée en tout cas dans la capitale sénégalaise. Plusieurs d'entre vous nous appellent du Tchad pour réagir au climat de tension qui persiste un mois après les violences du 20 octobre. Je vous rappelle le bilan officiel, une cinquantaine de morts, plus de 300 blessés et 600 arrestations selon le gouvernement. Bonjour Mamadou.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI et à votre dynamique équipe.
Merci de vos encouragements Mamadou, vous êtes à N'Djamena. Un mois après, quel constat dressez-vous de la situation dans votre pays?
Le constat que je dresse, c'est d'abord de dire tout simplement que nous sommes malheureux des événements du 20 octobre passé, qui se sont, n'est-ce pas, déroulés même pas une semaine après la mise en place du gouvernement actuel. Donc c'est une situation que nous déplorons et pour laquelle nous compatissons énormément. Par ailleurs, je dis maintenant que la justice fasse son travail, parce qu'un état de droit a pour socle d'abord la justice. Que la justice fasse son travail et un premier signal vient d'être donné par le tribunal de la ville de Mongo où le verdict a été donné. Et c'est encourageant.
Ouais, c'est cela que j'encourage les magistrats. Alors, quand vous parlez de ce procès, il a eu lieu mardi à Mongo. Effectivement, c'est le premier procès des manifestants. Les 11 personnes qui comparaissaient ont été relaxées.
Oui, tout à fait. Donc, c'est en cela que je dis que c'est encourageant. Et j'encourage également les magistrats à faire diligemment le travail au niveau de Korotoro, au niveau de Moussoro, pour que ceux qui sont injustement, n'est-ce pas, incarcérés, recouvrent leur liberté. Et ouais, ceux qui sont fautifs, soit, n'est-ce pas, puni. Par ailleurs, je dis également au gouvernement qu'il y a une charge énorme à exécuter. C'est en cela que les résolutions et les recommandations du DENIS doivent être déroulées dans les jours à venir. Donc, ce qui passe par la mise en place, n'est-ce pas, d'une équipe de rédaction de la Constitution, laquelle est, n'est-ce pas, le premier acte que le gouvernement devrait entreprendre afin que les institutions de la République soient instaurées. Donc, j'encourage le gouvernement à faire le travail parce qu'on n'a pas le temps. Et ce qui est demandé est extrêmement large en termes de travail, lourd en termes de charges. Et c'est en cela que je m'emploie.
Les défis à relever sont donc nombreux. Mamadou, ne raccrochez pas, je vous présente Prosper. Il est à Koumra, dans le sud du Tchad. Bonjour Prosper.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Mamadou parlait à l'instant de ce premier procès de manifestants qui s'est tenu donc mardi à Mongo. Vous aussi, vous êtes satisfait de la façon dont la justice travaille?
Effectivement, nous avons suivi avec vraiment de satisfaction les résultats du premier procès des manifestations arrêtées et surtout déportées dans la prison de haute sécurité du désert de Korotoro. Donc nous pensons déjà que la suite va bien se passer. Seulement, il y a lieu de se demander le sort réservé à d'autres prisonniers dans les prisons, dans d'autres localités, à l'exemple de la prison où je vis actuellement.
Pourquoi? Que se passe-t-il à Koumra, là où vous vivez?
Lors de la manifestation, surtout du 20, ouais, vous savez très bien que beaucoup de manifestations, les manifestants surtout sont...
Ah, Prosper, bah, décidément, on est en direct.
Bien que ce soit dans les quartiers et surtout sur les rues, beaucoup de gens sont arrêtés et également il y avait des chasses à l'homme, surtout on suit les gens concession en concession.
Allez, Prosper, on tend l'oreille, mais c'est compliqué, on fait au mieux, mais voilà. Mais vous parliez de chasse à l'homme, etc. Ça veut dire, vous me répondez oui ou non pour qu'on comprenne bien. À l'heure actuelle, dans votre ville, il y a des familles qui sont sans nouvelles de leurs proches ?
Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes, jusqu'à aujourd'hui, il y a ces gens-là qui sont incarcérés et dont les familles n'ont pas carrément de leurs nouvelles actuellement. Bien. Et déjà avec les premiers procès qui sont tombés, nous saluons le fond des mains extérieures parce qu'à un moment donné, vous savez que le gouvernement a nié d'abord l'arrestation de ces personnes qui sont déportées peut-être à Korotoro. Et aujourd'hui,
Le gouvernement n'a jamais nié qu'il y avait eu des arrestations, au contraire, mais le gouvernement avait minimisé l'ampleur de ces arrestations. Officiellement, il y a eu donc 600 arrestations, c'est le chiffre communiqué par le gouvernement, alors que le comité onusien contre la torture parle, lui, d'au moins 1400 arrestations. Merci à tous les deux, Prosper à Koumra, Mamadou à Djamena. Je vous entends encore au loin, je sais que vous aviez tous les deux envie de prolonger la discussion, mais il y a d'autres sujets qui suscitent l'intérêt d'une partie de nos auditeurs. Il y a notamment le sort de ce journaliste au Sénégal, Papa Lénian, interpellé le 6 novembre. Il est en prison depuis pour notamment diffusion d'informations militaires non autorisées. Ibrahima, bonjour. Bonjour, vous êtes à Thiès ?
Oui, à Ndjéguen, dans la commune de Djanda.
Là aussi, le réseau téléphone n'est pas très très bon. Alors, Ibrahima, on fait une tentative ou non ? Que me disent mes amis techniciens ?
Oui.
Alors on me dit oui, on fait une tentative, on règle les niveaux pendant que vous nous parliez. Vous déplorez, vous, la façon dont ce journaliste est traité ?
Vraiment, parce que ça, j'ai remarqué vraiment une sorte de dictature rampante et chacun aura son tour. Aujourd'hui, c'est pas Palaignan, demain, ça sera quelqu'un d'autre. Quand nous avons un président qui n'est pas...
Ibrahima, je suis désolé, votre voix se robotise et la liaison se dégrade. Très honnêtement, on ne sait pas quoi faire. Tout ça nous échappe. Les lignes télécom nous échappent. Je ne vous promets pas de vous reprendre d'ici les trois prochaines minutes. Ce sera trop court, j'imagine. D'autant qu'il y a Alphonse qui patiente au standard. Il est aussi au Sénégal. Il est à Fatik. Bonjour Alphonse.
Bonjour Johan. Bonjour aux auditeurs de RFI.
Voilà, on est à deux jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. Et puis il y a eu cette annonce hier soir. Sadio Mané qui est déclaré forfait.
Oui, cette terrible annonce qui affecte tout un peuple. Ça munit des espoirs, mais nous comptons quand même sur la jeune garde et nous comptons sur le coach Aliou Cissé, comme l'espoir, le football est un sport d'équipe et de solidarité. Nous demandons au coach Aliou de faire valoir le groupe, de montrer aux Sénégalais que le groupe est plus fort que Sadio Mané, que c'est bien possible d'être au toit du monde comme on l'a fait en Coupe d'Afrique. Et que le peuple sénégalais est derrière ces jeunes gardes et que nous les accompagnons. Que le football est ainsi, le sport est ainsi fait, des hauts et des bas. Mais le peuple sénégalais reste debout derrière son équipe et va pousser jusqu'au toit du monde cette jeunesse.
Ouais. Le Sénégal débute sa Coupe du Monde lundi contre les Pays-Bas. Quel est votre pronostic, Alphonse ?
On va battre la Hollande, ça c'est évident. On met 2-0 à la Hollande.
2-0, ah très bien, 2-0. Vous ne raccrochez pas, Alphonse. Certes, le Sénégal est sous le choc, mais tous ceux qui aiment le football, et notamment le football africain, sont également très émus par cette annonce. Colomoni, bonjour.
Bonjour, Chouan.
Vous êtes à Kinshasa, vous êtes Congolais, et malgré tout, vous dites c'est vraiment dommage pour le Sénégal, d'autant que pour vous, Sadio Mané est irremplaçable ?
Non, le Sénégal doit apprendre à être derrière son équipe et non pas derrière des individualités. Nous présentons toute notre compassion à Sadio Mané, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement d'état de santé. Vous savez, le football, c'est un jeu d'équipe. Sadio Mané, nous connaissons bien son talent, mais il n'est pas remplaçable. Puisqu'avant lui, il y a eu des Sadio Mané. Avec lui, nous avons Sadio Mané. Après lui, il y en aura encore.
Oui.
Sadio Mané sera toujours avec le Sénégal. Il est toujours avec le Sénégal. Mais le Sénégal, à un certain moment, indépendamment de sa volonté et de son souhait, sera sans cesse Sadio Mané. Donc il faudra que le Sénégal ne puisse pas décourager les 11 joueurs qui seront sur terrain à cause de forfait décrété contre Sadio Mané.
Calomonie, un pronostic pour le match de lundi?
Oui, Sénégal-Pays-Bas. Je vois une équipe sénégalaise en bonne forme et qui pourra faire des exploits.
Oui, mais ça ne me donne pas le pronostic.
Bon, le pronostic, il faut dire que je considère que le Sénégal va gagner.
Bon, d'accord. À 1-0. Ben voilà le pronostic, 1-0. Les pronostics, on les attend au standard et on en parlera tous ensemble lundi au lendemain du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Bon week-end, merci de votre fidélité.
Crédit Immobilier, le prêt longue durée de Banque Atlantique pour acquérir, construire ou rénover votre logement à taux exceptionnel, vous apprend